VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Une dizaine de personnes, dont un journaliste congolais, ont été enlevées hier par de présumés rebelles ougandais musulmans dans la région troublée de l'Est de la République démocratique du Congo. Ces présumés rebelles des forces démocratiques alliées, les ADF, ont bloqué les véhicules qui revenaient de Kassindi pendant un temps avant d'amener les otages, parmi lesquels le journaliste Jadou Mangwengwe, directeur de la radio Graben Beni, une station régionale, a expliqué à l'AFP Gilbert Kambalé, le président de la société civile locale. Interrogé par l'AFP, le maire de la ville de Beni a confirmé ces enlèvements. Toujours en RDC, une délégation de l'épiscopat catholique a rencontré le président Alpha Condé à la tête de l'Union africaine, mais aussi le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, qui dirige la conférence internationale des Grands Lacs. Eddy Sango a interviewé le porte-parole de la CENCO, l'abbé Donatien Cholet.
Les évêques sont allés rencontrer le président Alpha Condé, président de la Guinée-Conakry de l'Union africaine. Ils ont pensé utile rencontrer le président de la République du Congo, qui est aussi président de la conférence des pays des Grands Lacs. C'est dans le cadre de la coopération internationale. Les évêques sont convaincus que les amis, les voisins de l'Union africaine peuvent apporter une aide au peuple congolais dans la perspective de la recherche de solutions à la crise que nous traversons aujourd'hui.
Est-ce que ces rencontres pourraient avoir un impact sur les actions menées par l'Église catholique, notamment cette campagne des sons de cloches, mais aussi les mouvements des laïcs?
Ce qu'on attend du président Sassou, c'est avec les autres, échanger avec leurs collègues pour qu'on arrive à une solution. Pour nous, la solution, c'est avoir des élections comme prévu dans le calendrier en 2018, mais dans les bonnes conditions, c'est-à-dire un climat décrispé, des élections qui ne vont pas être contestées. Non, la nécessité de la redynamisation de la CENI, comme c'est voulu dans l'accord.
Toutes les parties congolaises semblent dire la même chose que vous revendiquez, mais qu'est-ce qui pourrait être changé dès la rencontre que vous avez eue avec M. Denis Sassou Nguesso, mais aussi avec Alpha Condé?
On n'attend pas toute la solution, on attend une contribution. Vous savez qu'aujourd'hui, la RD Congo n'est pas isolée. Il y a aussi un volet diplomatique dans la recherche de solutions. L'Église tente ce qu'il peut simplement parce qu'elle veut qu'on arrive à une solution. Dieu seul sait comment cela va réagir à notre demande.
Avant le 31 décembre, certains évêques n'ont pas permis qu'il y ait des manifestations dans leur diocèse, mais aussi, si on prend les chrétiens dans l'ensemble, il y a l'Église protestante, mais aussi les pasteurs évangélistes qui ne se sont pas associés à ces mouvements-là.
L'Église dénonce les attaques contre l'Église catholique. Le président, le vice-président de la CENCO, dénonce entre autres cette manipulation qui consiste à vouloir diviser la CENCO. Aucun évêque n'a condamné la marche, donc on ne vous trompe pas. On veut simplement manipuler les gens pour faire croire que l'Église est divisée. Par rapport aux autres confessions religieuses, écoutez, l'Église ne travaillent pas en fonction d'eux, hein, chacun a ses convictions. Les évêques observent le peuple congolais. Vous ne trouverez aucun évêque au Sénat, aucun évêque au Parlement, contrairement aux autres confessions qui ont des sénateurs, qui ont des députés. Ça signifie qu'ils brisent les postes politiques.
L'abbé Donatien Cholet, porte-parole de la Conférence épiscopale nationale de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Mozambique, Human Rights Watch dénonce des exactions impunies de l'armée et de l'ex-rébellion de la RENAMO. Dans un document de 65 pages, l'ONG a établi une longue liste d'abus recensés dans le centre du pays entre 2015 et 2016 qu'elle attribue aux forces gouvernementales et aux rebelles. Plus d'un an après l'instauration d'un cessez-le-feu, le gouvernement mozambicain n'a interpellé aucun membre de ses forces ou de la rébellion pour ses crimes, a déploré un responsable de Human Rights Watch. Le gouvernement doit enquêter sur ces abus des deux camps et poursuivre leurs auteurs, a-t-il ajouté. Vous suivez la voix de l'Amérique. À Madagascar, l'élection présidentielle se tiendra entre le 25 novembre et le 25 décembre, mais la commission électorale n'a pas donné de date précise. Eric Manirakiza.
Le président de la CENI, Eri Rakotomanan, a déclaré qu'il revient au gouvernement de déterminer la date du scrutin. Il a seulement indiqué que cette présidentielle se déroulera entre le 25 novembre et le 25 décembre de cette année. La Constitution stipule que la date de la présidentielle est déterminée au moins 30 jours et au plus 60 jours avant la fin du mandat en cours, qui doit prendre fin le 25 janvier 2019. Le président sortant, Eri Rajoan Rimampianin, n'a pas encore dit s'il veut ou non briguer un second mandat. Marc Ravalomanan et Andri Rajoel, les deux anciens présidents rivaux, se jettent dans la course, chacun voulant prendre sa revanche sur l'autre. Tous deux avaient été empêchés de participer au scrutin de 2013. Marc Ravalomanan a été renversé en 2009 par le maire d'Antananarivo, Andri Rajoel, qui a assuré une transition jusqu'en 2014. L'arrivée au pouvoir de Eri Rajoan Rimampianin a mis un terme aux crises politiques à répétition sur la Grande Île.
En Côte d'Ivoire, le verdict est tombé hier soir dans le procès des gendarmes et civils accusés d'avoir voulu renverser en décembre 2012 le président Alassane Ouattara. Le principal accusé, le commandant Jean-Noël Abéhi, écope de 10 ans de prison. À Abidjan, retrouvons notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Dans le verdict rendu ce jeudi à 23h GMT, la cour s'est montrée clémente alors que le parquet général avait requis la prison à vie à l'encontre des 12 prévenus qui comparaissaient. La cour a plutôt prononcé la relax pur et simple pour 8 d'entre eux, tous des civils. En revanche, elle a retenu 10 ans de prison à l'encontre du commandant Jean-Noël Abéhi et du maréchal des logis, Félix Pla, ainsi que de 2 autres co-accusés, un gendarme et un policier. Les 4 prévenus sont accusés de complot et d'atteinte à la sûreté de l'État. Pour la cour, il n'y a pas de doute, les faits sont établis. Le commandant Abéhi a reconnu lors de ce procès que pendant son exil au Ghana, il a participé aux réunions d'une plateforme militaire initiée par Kone Katina, porte-parole de l'ancien président Laurent Gbagbo, et qui projetait de renverser le pouvoir du président Ouattara. L'opération était programmée pour le 23 décembre 2012, mais a finalement été un échec. Si la partie civile dit prendre acte de ce verdict, l'avocat de Jean-Noël Abéhi ne cache pas quant à lui sa déception et annonce qu'il va dès ce vendredi se pourvoir en cassation. Jean-Noël Abéhi, ancien commandant du groupement d'escadrons blindés du camp de gendarmerie d'Agban, est considéré comme l'un des piliers de l'appareil sécuritaire de l'ex-régime de Laurent Gbagbo. Arrêté en février 2013 à Accra au Ghana et estradé à Abidjan, il purge déjà une peine de 5 ans de prison pour désertion. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Près de 780 personnes ont été arrêtées en Tunisie depuis le déclenchement lundi des troubles sociaux alimentés par des mesures d'austérité, a précisé aujourd'hui le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Khalifa Chibani, sur une radio privée. Le mouvement Fesh Nestaniou, qu'est-ce qu'on attend? C'est la signification qui a lancé en début d'année la contestation contre la hausse des prix, a appelé de son côté à une nouvelle mobilisation ce vendredi. À Washington, il est 6h07. Vous suivez la Voix de l'Amérique. 11 détenus de la prison militaire américaine de Guantanamo ont lancé jeudi des poursuites contre le président des États-Unis, Donald Trump, estimant être illégalement maintenus en prison parce qu'ils sont musulmans. S'inspirant des arguments mis en avant par les détracteurs du décret présidentiel anti-immigration qui visait dans un premier temps uniquement des pays à majorité musulmane, les prisonniers ont cité dans leur plainte des tweets et autres déclarations du milliardaire démontrant, selon eux, ses préjugés anti-islam. Le président américain doit rendre public aujourd'hui sa décision de réimposer ou non des sanctions économiques contre l'Iran au risque de torpiller l'accord nucléaire conclu en 2015 avec Téhéran, défendu par d'autres puissances signataires. M. Trump, un détracteur farouche de cet accord, était censé prendre sa décision lors d'une réunion jeudi de ses principaux conseillers, selon un membre de l'administration. Un haut responsable du département d'État a indiqué qu'elle serait rendue publique ce vendredi. En octobre, le chef de l'exécutif américain avait refusé de certifier que Téhéran respectait les termes de l'accord, sémant la confusion sur le sort du texte, âprement négocié pendant plus de 2 ans entre l'Iran et les grandes puissances, l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Et puis, en Allemagne, la chancelière conservatrice Angela Merkel et les sociaux-démocrates sont parvenus aujourd'hui, ce matin, après plus de 24 heures de négociations, à un accord de principe en vue de former un nouveau gouvernement en Allemagne, a indiqué à l'AFP une source proche des discussions. Cette source a répondu par l'affirmative à la question de savoir si un compromis avait été obtenu. Il va devoir encore être soumis dans la journée aux instances dirigeantes des partis concernés, les démocrates chrétiens et les sociaux-démocrates, pour approbation. Jean-Roger Billon, prochain journal dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Harry Francis. Restez des nôtres et merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.